Il dit à sa maman, « Dis, maman, tu pourrais pas dormir avec moi cette nuit ?» Et sa maman lui répond, « Oh, j'aimerais bien, hein, mais je dois dormir avec papa cette nuit. » Et le petit garçon de lui répondre, « Oh, papa, quel peureux !» Et c'est une histoire délicieuse pour dire que même les papas ont peur. N'ayons pas peur des mots, on a tous peur, c'est Jean-Paul Sartre qui le disait, on a tous peur, celui qui n'a pas peur n'est pas normal. Même Homer Simpson, à côté du cri de Munch, hein, Homer Simpson pousse des cris des fois, même les animaux ont peur, regardez cette image du chat qui a peur. Je m'intéresse à cette question de peur depuis bien longtemps, et vous allez savoir pourquoi, mais en 2000, il y a tout un dossier du magazine L'Express qui est sorti sur la peur, et je l'ai acheté, et je l'ai lu, le dossier, et j'ai eu peur. J'ai eu peur parce qu'il décrivait trois sortes de peureux, le peureux hyperactif, le peureux perfectionniste et le peureux sceptique. Et j'ai eu peur parce que je me suis reconnu dans les trois portraits de peureux. Alors ça fait un effet bizarre, ça fait peur de se voir peureux en trois dimensions. Ce qui m'encourage dans l'histoire, c'est que j'ai l'impression que je ne suis pas le seul peureux sur Terre. Vous allez me dire que parfois, il faut avoir peur. Et c'est vrai qu'il y a des bonnes peurs, des peurs qui nous empêchent de faire des bêtises ou de prendre des risques inconsidérés, comme toucher de la main aux gens ce matin. On était pris par la peur du coronavirus, mais voilà, il y a des bonnes peurs. Il y a un marin qui disait quelque chose d'excellent. Et voilà ce qu'il disait. « Un homme qui n'a pas peur de la mer ne tardera pas à se noyer, car il sortira un jour qu'il ne devrait pas. » Mais nous, on a peur de la mer et on se noie que de temps en temps. Voilà une sagesse de marin. Il vaut mieux une bonne trouille qu'une noyade. Mais on va laisser les bonnes peurs qui sauvent la vie pour parler des peurs qui nous plombent la vie. Des peurs qui nous attaquent à l'intérieur, qui touchent à des domaines essentiels de l'existence. J'ai lu quelque part le témoignage de cette jeune fille qui raconte qu'au travail, on l'appelle celle qui a peur de tout, même de son ombre. Et c'est un joli nom, enfin c'est simple, enfin c'est un joli nom. Non, c'est une expression assez bien trouvée, avoir peur de son ombre, celle qui a peur de tout, même de son ombre. Mais j'imagine la vie de cette fille qui a peur de tout, même de son ombre. Une vie au ralenti, et il me semble qu'elle passe à côté de beaucoup de choses, et qu'elle passe à côté de la vie elle-même, plombée qu'elle est, par sa peur de tout et de son ombre. Et donc la peur de tout et de son ombre fait partie de ces peurs qui agissent en profondeur et qui nous empêchent de vivre pleinement la vie que nous sommes censés vivre. Et je vous livre une série de peurs ce matin, peut-être pour que vous y reconnaissiez votre peur. Il y a la peur de soi, il y a la peur des autres, il y a la peur des virus, il fallait le dire quand même. Ou la peur des microbes. Moi, j'ai connu quelqu'un qui avait une peur bleue des microbes et qui, dans ses relations, ça posait des problèmes quand même. T'as peur des microbes, t'as peur des autres. Peur de vieillir, peur de l'inconnu, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas plaire, peur de la maladie, peur de décevoir, peur de l'échec, peur d'être inutile, peur de ne pas être à la hauteur, peur du rejet, peur de la solitude, peur de manquer de quelque chose. Et vous, quelle est votre peur? Quand j'ai étudié cette question de la peur, J'ai fait comme d'habitude, je suis allé à la FNAC et puis j'ai regardé, je suis allé au rayon développement personnel, c'est le rayon le plus important à la FNAC, le développement de soi. Et j'ai vu plusieurs livres qui parlaient des peurs et j'en ai vu un qui s'intitulait « Même pas peur », écrit par un coach en relations humaines. J'ai acheté le deuxième qui s'intitulait « La peur de l'insignifiance nous rendra fous ». Et ce livre nous parle d'une peur moderne, c'est celle de ne pas avoir d'amis sur Facebook, c'est la peur de ne pas avoir de followers sur Twitter, c'est la peur de ne compter pour personne et de ne compter pour rien, la peur de l'insignifiance. J'ai trouvé que c'était très, très fin. Le livre n'est pas terrible, mais le titre est excellent. Alors on nous dit que c'est une peur moderne, mais il me semble que ce n'est pas une peur moderne. C'est une peur qui traverse les générations et qui est quasiment inscrite dans nos gènes, la peur de l'insignifiance, de ne rien signifier. Alors le problème avec toutes ces peurs, c'est qu'elles nous poussent à nous réfugier dans une zone de sécurité que l'on ne voudra pas quitter par peur ou par peur d'avoir peur. Il y a quelqu'un qui disait « j'ai peur du jour où j'aurai peur ». Ça, c'est intéressant. Et parfois, on a peur, simplement du jour où on aura peur, où on a peur. Bref, et donc on reste immobile, on reste paralysé en quelque sorte, et pour employer un mot d'actualité, on reste confiné. Confiné dans sa vie parce qu'on a peur d'avoir peur ou on a peur de quelque chose. Et c'est ça le problème de ces peurs qui nous hantent à l'intérieur. Elles vont nous empêcher d'accomplir les rêves que l'on pourrait avoir. Elles vont nous empêcher aussi d'apporter les changements qu'on devrait apporter dans la vie. Elles vont peut-être nous empêcher d'entrer en relation avec les autres ou de nous engager dans une relation durable avec quelqu'un parce qu'on a peur. Elles vont nous empêcher d'exprimer nos dons ou nos talents. Elles vont nous empêcher de relever les défis de la vie, de relever même les défis de la vie que Dieu veut que nous menions. Et quand la Bible nous parle de la vie avec Dieu, il nous parle de la vie abondante. Les peurs nous empêchent d'entrer dans cette vie abondante dont Jésus nous parle, dont Dieu, le prince de la vie, ou Jésus, le prince de la vie, nous parle. Comment peut-on parler de vie abondante quand on a l'estomac noué par les peurs, par cette peur? Alors, que faire de ces peurs? Alors, les quelques livres que j'ai feuilletés à la FNAC nous disent qu'il faut apprivoiser sa peur. Comme s'il s'agissait d'un animal, comme si nos peurs demandaient, comme dans Le Petit Prince, la petite renarde toute mignonne, « S'il te plaît, apprivoise-moi. » Mais la peur ne demande rien. Elle ne demande pas en tout cas d'être apprivoisée. Elle ne ressemble pas à ce petit animal bien mignonne, mais plutôt à un monstre tapis dans le noir et qui ressemble à notre ombre. Et plutôt que de l'apprivoiser ou de l'apprivoiser, il me semble qu'il faudrait employer les grands moyens, lutter, la prendre à bras le corps. Et je vous propose quelques, pas des prises de judo, mais presque, pour lutter contre ces peurs, savoir d'abord avouer sa peur. Il s'agit d'arrêter à ce petit jeu que l'on joue souvent, celui du « même pas peur ». Moi, j'ai même pas peur. Que l'on joue dans la cour de récré de sa vie d'adulte. Cessez de dire « je n'ai peur de rien » quand un rien nous fait peur. Alors quand j'étais petit, j'ai été impressionné par l'histoire du chevalier Bayard au collège François Couperin de Fontainebleau. Le chevalier sans peur et sans reproche. Nous on disait « sans beurre et sans brioche ». Mais moi j'ai été impressionné comme toutes les histoires de chevaliers et comme les chevaliers de la table ronde aussi qui n'avaient peur de rien et comme Bayard. Et j'avais tellement envie d'être comme eux, sans peur et sans reproche. Mais c'est un jeu qui peut être dangereux. Vous savez qu'on appelle ça, en petite psychologie, des comportements contre-phobiques, des gens qui jouent au jeu du même pas peur alors qu'ils ont peur. On a peur, mais pour le cacher, on joue au même pas peur et on prend tous les risques possibles, on fonce tête baissée dans le danger, c'est une sorte de fuite en avant. Alors qu'on a peur, on prend des risques inconsidérés. Des comportements contre-phobiques. Mais ce n'est pas du courage, c'est un comportement pathologique qui se termine bien souvent par une tragédie. Arrêtez de jouer à ce jeu d'enfant ou d'adulte du même pas peur. Avouez que l'on a peur. Pas le crier sous tous les toits, mais de l'avouer au fond de son cœur. Il y a un verset dans la Bible qui dit, c'est le psaume 15, l'auteur du psaume dit « Celui qui dans son cœur cultive la vérité » Et il y a une suite, mais on s'arrête un petit peu dans ce mot, cette expression « cultiver la vérité », qui prend le temps de travailler, et un cultivateur, ça prend du temps le travail de la culture, qui prend le temps de travailler la vérité sur lui-même. C'est un travail de longue haleine, mais il faut prendre le temps de cultiver la vérité sur soi. Et c'est suivi par une promesse « pourra habiter dans la tente de Dieu ». Celui qui cultive la vérité au fond de lui et sur lui-même pourra habiter dans la tente de Dieu, la tente de la rencontre, qui n'est pas une zone de sécurité avec un cordon de sécurité ou un cordon sanitaire, mais l'image de cette tente, c'est l'image de la paix et de la fête, de la shalom de Dieu, de la paix, c'est-à-dire l'état de celui à qui il ne manque rien. Donc je dirais qu'il y a il y a un avenir pour celui qui cultive la vérité dans son cœur et qui peut dire en vérité « j'ai peur ». Il y a de l'avenir pour celui qui peut dire « j'avoue ma peur ». Et pour avouer sa peur, il faudrait un élément indispensable dans le processus, et cet élément, c'est l'humilité. Lors de la route du Rhum, qui est une course à la voile en solitaire et sans escale, en 2006, j'ai été frappé par le témoignage d'un homme, d'un marin, Jean Le Cam, vous vous en souvenez certainement, qui, sans avoir d'avarie ni avoir chaviré, le deuxième jour de la course, a décidé d'arrêter la course et de rentrer au port. Et il raconte qu'il a fait ça parce qu'il a vu un bateau chaviré, un autre trimaran chaviré, et un troisième trimaran lui rentrait dedans. Et ils vont vite, hein, c'est les Formule 1 de la mer. Et Jean Le Cam, marin expérimenté, est rentré au port. Et il a dit, et les titres des journaux, pas seulement bretons, le disaient également, Jean Le Cam a eu peur. Et je trouvais cet homme tellement humble. En tant que grand marin professionnel, peut-être qu'il a perdu quelques contrats, mais d'avouer sa peur. Et il a dit, jamais plus je ferai des courses en solitaire, avec un équipage, oui, mais plus jamais en solitaire. J'ai eu trop peur, quelle humilité ce marin. Et nous pourrions prendre exemple sur l'humilité de Jean Le Cam, nous les vieux loups de mer ou les marins d'eau douce, et c'est pas mal d'être humble. Parce que Dieu a des promesses particulières pour ceux qui sont humbles. Et ça, c'est le fil rouge de toute la Bible. Et la promesse qu'il donne à ceux qui sont humbles, c'est de les relever. Dieu relève les humbles. Suffisamment humbles pour avouer leur peur. Il y a de l'avenir, oui, pour ceux qui cultivent la vérité. Le deuxième jalon à poser, c'est de pouvoir identifier sa peur. Essayer de discerner les contours de sa peur, essayer de connaître les éléments fondateurs de cette peur, de connaître les circonstances pendant lesquelles ou dans lesquelles elle apparaît. Faire une sorte de carte géographique de sa peur. Parce que en faisant une carte ou en ayant une carte, on s'y retrouve plus facilement. De pouvoir discerner les contours de cette peur, de pouvoir même la nommer, Lui donner un nom à cette peur, ça la rend moins effrayante déjà. Ça la rend moins paralysante de pouvoir donner un nom. Moi, j'avais peur des chiens quand j'étais petit. Les gros chiens qui aboient quand vous vous promenez, là, ça fait peur. Et la maîtresse a beau dire, vous inquiétez pas, il fait pas mal. J'en sais rien, moi. Mais quand je passais devant des jardins clôturés et que les chiens me bondissaient dessus, je les appelais Médor, parce que tous les chiens s'appelaient Médor. Et je disais, Médor, couchez. Et j'avais moins peur déjà. Je nommais la peur. Non, mais pouvoir cerner sa peur, l'identifier, la nommer, ça la rend moins effrayante. Alors, il faut parfois prendre sa loupe et une bonne carte pour retrouver la source de ses peurs ou l'événement fondateur de sa peur. C'est parfois compliqué parce que dans les peurs, il y a un mélange d'affluents, de confluents. On est un petit peu comme le professeur Livingstone hein, qui recherche la source du Nil. Mais on peut retrouver, par exemple, si cette peur de parler en public, si elle ne revient pas à l'époque où j'étais en CM1, où je donnais un exposé sur les dinosaures et que toute la classe s'était moquée de moi parce que j'avais confondu le tyrannosaure et le diplodocus. Ou alors, cette peur de s'engager dans une relation durable pourrait-elle venir du divorce de ses parents, de mes parents, enfin, ça ne s'est pas passé, mais de nos parents alors que nous étions ados. Il y a des peurs qui s'expliquent par les événements du passé et les identifier, ça permet de progresser. Les nommer, ça permet d'aller de l'avant. Et puis si on remonte encore à la rivière, vers la source principale de la peur, on arrive à la peur mère, à la peur reine, la reine des peurs, la reine des terreurs. C'est Job. Enfin, vous savez, Job, c'est un livre biblique. On a l'expression « pauvre comme Job », parce qu'il lui est arrivé bien des misères. Mais il y a un des amis de Job qui lui parle de la peur de la mort et qu'il appelle la reine des terreurs. Et il lui donne, et ce n'est pas très encourageant, il dit « l'homme se traîne vers la reine des terreurs ». La reine des peurs, c'est la mort. Et dans le « que sais-je », on lit moins les « que sais-je », mais il y a un « que sais-je » qui est paru sur la peur et qui nous dit « personne n'est exempt de la peur de la mort, car personne n'échappe à la mort ». La mort est bien le lieu géométrique de toutes les craintes, où toutes les craintes se retrouvent, car au fond, il n'existe qu'une peur, la peur de la mort. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il n'existe qu'une peur, mais c'est sûr que la peur de la mort est bien à l'arrière-plan de pas mal de nos peurs. La peur du noir liée à la peur de la mort, oui, la peur des ténèbres, la peur de l'échec, la peur de l'avenir, la peur de l'inconnu, la peur de manquer, la peur de la solitude et aussi la peur de l'insignifiance. Est lié certainement à la peur de la mort. Alors cette identification de nos peurs n'est pas chose facile, d'autant que la peur peut se camoufler. On peut la couvrir par une autre émotion qui serait plus acceptable pour mon ego, surtout en tant que mâle viril. Mais la peur peut être camouflée par une émotion particulière, la colère par exemple. Et moi, je m'aperçois que dans notre couple, je me mets parfois en colère une fois tous les 10 ans peut-être, mais je sais que cette colère, elle cache une peur. Et je m'en suis aperçu, véritablement. Il y a un camouflage de la peur par la colère qui est peut-être plus acceptable pour l'ego, mais qui ne résout rien. Pour déblayer, il faut pouvoir faire parfois appel à l'équipe. Moi, j'ai un souvenir dans un groupe de maisons d'une église dans le nord de l'Europe, au nord du Rhône. C'est comme ça qu'on dit pour dire le nord. Ici, c'est au-delà du Rhône, on va dire. Donc, c'est très au nord, là, c'est pratiquement la banquise. Un groupe de maisons qu'on appelait PEP, Partage, Études, Prière. Venez au PEP pour avoir un peu de PEPS. C'était bien trouvé. Et ce soir-là, il y a une dame qui est venue, qu'on connaissait bien, mais toute tremblante, et qui nous a parlé d'emblée de la peur qu'elle avait, qu'elle n'arrivait pas trop à identifier. Et tout le groupe de maison, toute la rencontre, 2 ou 3 heures, ça s'est focalisé sur ce problème de cette dame. Et on a partagé. Et on a posé des questions, et puis il y a eu des apartés, puis on a fait des détours, puis on est revenu sur le sujet. On a parlé de la peur de cette dame, et on a prié. Et il me semble qu'à la fin, la dame est partie du PEP avec un petit peu plus de PEPS. Pouvoir ensemble parler de ses peurs et prier. Et puis nous arrivons au troisième point de la stratégie, dépasser sa peur. Après l'avoir avoué, après avoir identifié, il s'agit de la dépasser, et je jouerai un petit peu sur les mots, dépasser sa peur ou la faire passer. Parce qu'avec la peur, il faut que quelque chose se passe. Sinon, comme on dit à Bruxelles, si ça continue, ça va cesser. Et avec les peurs, c'est ça. Si ça continue, ça va cesser. Il y a quelque chose qui va manquer, parce qu'on ne peut pas vivre trop longtemps comme ça, avec le poids de ses peurs sur son dos, avec toute cette casserole, toute cette série de casseroles derrière soi. Alors, on entend de ci, de là, des témoignages de gens qui sont parvenus à dépasser leur peur. Des gens qui ne jouent plus au jeu du même pas peur, mais qui disent « j'avais peur, mais maintenant la peur n'est plus vraiment un problème pour moi ». Il y a un certain David qui écrit « oui, il m'a délivré de mes frayeurs ». Il y a un autre groupe de personnes qui disent « c'est pourquoi nous n'avons plus peur quand la terre tremble, quand les montagnes vacillent, quand les eaux grondent au fond des mers ». On n'a plus peur. On est délivré de toutes nos frayeurs, disent-ils. Alors, on trouve ça fantastique, mais on est quand même un peu sceptique. Comment ne pas avoir peur, surtout dans ce monde dans lequel nous vivons et aujourd'hui ? Mais quand on va un petit peu plus loin dans ces témoignages bibliques, on s'aperçoit qu'il y a en amont une sorte de passage. En amont de cette déclaration de non-peur, de fin de peur, il y a un passage comme le passage d'un règne à un autre. Ces gens sont passés volontairement et consciemment du règne de la peur au règne de Dieu et de la vie. Il y a un passage, et le même auteur dit « Je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu ». Le même David qui disait qu'il n'avait plus peur, il s'est tourné vers l'Éternel et résolument, il a pris ses peurs avouées et identifiées et il les a placées devant Dieu qui est pour lui un abri et un secours bien présent dans la détresse. Un abri, mais un abri, quand il est là, il faut venir s'y abriter. Et il y a ce passage, je cours vers l'abri, je me réfugie dans l'abri, je trouve refuge dans l'abri, il y a passage. Il est passé avec ses peurs d'un camp à un autre. Et la Bible nous dit, dans le Nouveau Testament, quelque chose de vraiment intéressant, et Théa l'a chanté tout à l'heure, tellement bien chanté, que la peur de la mort est un esclavage. La peur de la mort, lieu géométrique de toutes nos peurs, est un esclavage. Mais que cet esclavage doit cesser sous le règne de Jésus. Et je vous cite ce verset libérateur dans l'Épître aux Hébreux qui nous parle de ce Jésus qui a pris sur lui notre condition humaine avec les peurs. Jésus a eu peur. Jésus a eu peur de la mort. On parle d'angoisse pour Jésus dans le Nouveau Testament, dans le jardin de Gethsémané. Mais que par sa mort, il a réduit à l'impuissance celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Il l'a réduit à l'impuissance et il nous a délivrés ou libérés. Il a libéré tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Et les mots sont forts. On parle d'esclavage Mais on parle aussi de délivrance ou de libération de tous ceux qui vivaient dans l'esclavage de la mort. Et tout cela par la mort de Jésus sur la croix, où il prend sur lui toute la noirceur du monde, toutes les ténèbres du monde, tout le péché du monde, toutes les peurs du monde. Et cette mort sera suivie par la résurrection, et tout ça sonne comme une défaite sur la mort et sur la peur de la mort. Et il y a manifestement dans cette histoire de Jésus, mort et résurrection, une victoire de la vie. Et si Jésus nous délivre de la peur de la mort, qui est le lieu géométrique de toutes nos peurs, il me délivre aussi des autres peurs. La peur de ne pas compter pour les autres, ou de ne compter pour personne, la peur de l'inconnu, la peur de l'avenir, et aussi la peur de mon insignifiance. Avec Jésus, je n'ai plus peur d'être insignifiant, puisque par amour pour moi, il a donné sa vie pour moi. Je ne suis plus insignifiant, je signifie quelque chose pour Jésus, pour Dieu lui-même. Et je suis devenu, comme le chantait encore une fois Théa tout à l'heure, enfant de Dieu, j'ai une nouvelle identité en lui, j'ai une vie nouvelle à vivre avec lui, avec un nouveau but, avec une nouvelle mission, avec un nouveau sens. Oui, avec la mort et la résurrection de Jésus, mais la peur de la mort, la reine des peurs, prend un fameux coup. Et toutes les chaînes des peurs, ou l'enchaînement des peurs qui suivent cela, en prend un fameux coup. Mais il y a un passage à faire. Il ne s'agit pas de commencer à prier parce qu'il y a un des moteurs de l'avion qui est annoncé en panne. Ça ne marche pas. Il s'agit de se placer résolument, consciemment, sous le nouveau règne de Jésus, le règne de la vie, le règne de l'avenir. De prendre Jésus comme un nouveau capitaine dans le bateau de notre vie, et de ne pas le perdre de vue, comme Pierre le fait. Effectivement, il s'enfonce parce qu'il commence à regarder les éléments. Autour de lui, il s'aperçoit que le vent est méga, quoi. Il y a un méga vent, un grand vent en grec. Et il s'enfonce, continue à regarder à Jésus et à sa victoire de la vie pour ne plus avoir peur. Vous savez, un jour, un homme s'est approché de Jésus. Et cet homme était aveugle. Il, j'imagine, aveugle dans les ténèbres, avec la peur de ne pas être guidé là où il faut, que quelqu'un mal intentionné profite de son handicap, la peur au ventre. Et Jésus va lui demander quelque chose d'étonnant. Il va lui demander : que veux-tu que je te fasse ? Et tous les observateurs de la scène diraient : Jésus, ça me semble évident. Il voudrait être guéri de sa cécité. Il voudrait voir clair. Mais Jésus demande quand même : que veux-tu que je te fasse ? Parce que Jésus aime entendre la personne parler d'elle-même, d'être précis, d'avouer ce qu'elle veut vraiment. Peut-être qu'il lui demande pour qu'il puisse identifier son besoin, avouer sa peur, et aussi qu'il puisse poser un acte de foi, qu'il puisse ça puisse permettre un saut de confiance. Et j'aime bien cette image, pour passer du passage, vous vous souvenez de cette fille qui avait peur de tout, même de son ombre, et là c'est la même fille, je vous jure, qui saute la flaque d'eau où il y a son ombre. J'ai bien aimé. Passer pour dépasser sa peur. Passer et faire un passage d'un règne à un autre pour dépasser sa peur. Et il nous demande encore aujourd'hui, à chacun d'entre vous, que veux-tu que je te fasse ? Et si on a le courage, et si on a, non pas tellement le courage, si on a l'humilité de lui dire : Jésus, prends ma peur, je te la donne, je te la passe, ma peur, parce que toi tu sais quoi en faire. Et quand on lui dit cela, vous savez, et ce n'est pas une promesse de Gascon, Jésus répond. Et il la prend effectivement, cette peur. Il la prend comme il a guéri l'aveugle. Il guérit les peureux. Tous ceux qui sont suffisamment humbles pour lui dire : j'ai peur, prends ma peur. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour tous les peureux du monde, dont je suis moi-même, et vous l'avez compris, le premier. Chers amis peureux, quelle que soit votre peur, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il est temps de dépasser votre peur et de passer sous le règne de Dieu. Il est temps de laisser la tyrannie de la peur derrière soi. On lui a assez donné de notre temps, de notre énergie. Il faut que ça soit fini, ça en soit fini de notre peur. On lui doit plus rien, on lui doit rien. Il est temps de se lever et de m'appeler au règne de Dieu dans notre vie. Il y a une femme de 47 ans, Marianne Blondel, avec deux E à Blondel, je n'ai pas marqué le nom de famille, je pense qu'elle était belge ou flamande, qui raconte « Nous avions été élevés dans l'obligation de ne rien demander à personne et de nous débrouiller par nous-mêmes ». Elle raconte aussi qu'elle était prise par la peur de ne pas être à la hauteur, avec cette impossibilité de demander un soutien. Mais, nous dit-elle, j'ai appris que je pouvais demander de l'aide à Jésus. J'ai découvert que je pouvais me faire accompagner par d'autres en leur demandant de prier pour moi sans avoir besoin de rentrer dans les détails. Et j'aime bien sa dernière phrase, tout en humilité. Toute ma vie a pris une couleur différente. C'est un beau témoignage, n'est-ce pas, qui nous parle de ses peurs, qui nous parle d'accompagnement. Alors, est-ce que ça veut dire que lorsqu'on est chrétien, on n'a plus peur de rien, jamais? Bien sûr que non. Ce serait de la démagogie de dire ça. Une fois chrétien, plus peur de rien. Chevalier Bayard, tous les jours. Et la démagogie n'est pas le genre de la maison. Mais quand on est chrétien, on a un endroit, on a un lieu en Christ, en Jésus, en Dieu, pour déposer ses craintes. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et c'est ça qui donne une toute autre couleur à la vie. Vous savez quel est l'impératif qui revient le plus souvent dans la Bible ? C'est « n'ayez pas peur ». Certains disent même que ça revient 365 fois. Je pense que ça ne revient qu'une centaine de fois. Mais même 100 fois, ça veut dire que deux fois par semaine, on peut venir avec ses peurs devant Dieu, les déposer. La Bible nous dit de nous décharger sur Dieu de tous nos soucis, car il prend soin de nous. Nous décharger de ce qui nous inquiète, de ce qui nous fait peur. Et je vous propose maintenant un petit moment pour cultiver la vérité au fond de votre cœur. Avec la musique, là, mon seul abri, c'est toi. Un temps pour déposer sa peur. Un temps pour peut-être venir à Jésus.